Bonjour tout le monde. Alors, c'est rattrapage ou une entrevue complète de Danina Capitanovic qui est passée sur mon carnet avec Bruno Guglielminetti juste un petit peu avant le temps des fêtes 2023. Donc, j'espère que vous allez aimer. C'est Danina est la Chief Innovation Officer au CIUS du centre-ouest de Montréal, est aussi la Head of Oro, qui est la partie innovation du CIUS qui applique justement ou qui se veut le bras innovation de l'hôpital. Donc, ils mettent en place des méthodologies UX et puis c'est pour ça que j'ai eu l'occasion de l'interviewer. Et comme j'avais beaucoup plus de matériel, j'en ai profité pour faire cette partie-là sur UXPod qui est la version longue de l'entrevue avec Danina. Donc, voilà, bonne écoute.
Bonjour Jean-François, mais
Bonjour.
quand je suis arrivé chez Pixip, il y avait déjà une organisation de design qui était en place, mise en place, mise au point par la prédécesseur que j'avais dans le poste, qui est Léa, qui avait fait un excellent travail d'adoption, d'intégration du design au sein de l'entreprise. Et du coup, je ne suis pas arrivé dans un endroit où le design n'était pas connu. Il avait une très belle place au sein du cycle de développement produit. C'est pas toujours le cas, et il y a pas forcément une recette magique pour les faire adopter. C'est même si on voudrait qu'il y ait une recette magique, il n'y a pas une recette magique pour faire adopter le design, pour que ça soit facile. Il y a, si je peux, du coup j'élargis ma réponse, mais en gros j'ai été dans des entreprises, de grosses entreprises, des entreprises un petit peu plus petites, des filiales un peu digitales, dans des scale-up comme Payfit aujourd'hui. Et il y a des éléments qui peuvent aider à cette adoption du design, à cette intégration du design au sein de l'entreprise. Mais la une qui est nécessaire, à mon avis, c'est avoir un sponsor top level. Quelqu'un qui comprend le design, qui croit à l'impact qui peut avoir le design dans le produit, dans l'entreprise. Quelqu'un qui va le mettre en avant, mais qui va le défendre, mais qui va le challenger aussi parce qu'il le comprend. Sans ça, ça va pas fonctionner. C'est pas le seul critère, mais il est nécessaire. Et après, peu importe qui c'est dans l'organisation. Et nous, côté design, on regarde souvent à qui est rattaché le design. Est-ce que c'est le marketing? Est-ce que c'est le produit? Est-ce que c'est la tech? Et ça nous crée des fois des tabous ou même des blocages parce qu'on est rattaché à certains départements. Moi, je trouve que c'est pas si important que ça. Le plus important, c'est que la personne qui est là croit vraiment au design et croit à cette intégration du design au sein de l'organisation comme un élément structurant.
Et questionnant également, non? Parce que si on te laisse les coudées franches d'avoir un département design dans une organisation, tu es là pour challenger les autres départements en principe. Tu n'es pas là pour être l'outil de réalisation de leurs rêves, là.
Non, non, bien sûr, mais quand je dis que la personne aussi comprend le design, c'est parce qu'elle a une connaissance pas approfondie du métier, mais en tout cas de la valeur que lui il peut apporter. Et sans doute, c'est aussi notre devoir même si l'entreprise peut avoir des attentes, et c'est bien aussi qu'il ait des attentes vis-à-vis du design, que même des attentes des fois soient un petit peu hors sol, c'est pas si grave que ça. Nous, on est là aussi pour comprendre l'entreprise. Je pense que c'est aussi un deuxième critère. On a besoin d'un sponsor, et l'autre côté, c'est il y a besoin qu'on connaisse les business, les clients, les purpose de l'entreprise, à quoi elle, qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi elle existe. Et du coup, où nous, on va aider aussi à faire atterrir un petit peu ces expectations qui des fois peut être un peu trop hautes, ou des fois trop limitées sur des aspects peut-être des fois graphiques, ou d'autres sur des aspects on va faire rêver avec une équipe de design. Donc, il faut que nous aussi, on fasse notre devoir de designer, faire la recherche, regarder au-delà de notre périmètre dans un premier temps, mieux comprendre, mieux appréhender, et du coup, faire une recherche en gros, et du coup, mieux comprendre pourquoi on fait ce qu'on doit faire, quel est le sens de notre design, de notre travail.
Et comment tu décrirais la différence qu'on représente quand on dit tu es design, tu es un département design à l'intérieur d'une boîte de tech? Est-ce que tu te sens en opposition à tous les autres départements par définition même? Opposition est peut-être pas le bon mot, mais est-ce qu'on n'est pas un peu une espèce d'élément différenciateur dans une organisation qui doit amener. C'est un peu cerveau droit, cerveau gauche, si je veux simplifier un peu trop, mais est-ce qu'on n'est pas un peu ça dans une organisation, le défenseur de certaines choses que ont tendance à être oubliés dans une entreprise technologique?
Honnêtement, non. Je pense que ça peut être le cas dans une entreprise donnée, dans laquelle le design doit être un petit peu à trouver ou à défendre trop l'utilisateur ou le rôle du design ou être un peu à l'encontre du reste. Un peu, j'ai pas utilisé ton mot, mais ça peut arriver. Mais en gros, c'est justement ce qu'on doit éviter. En fait, nous, dans des entreprises tech, l'entreprise tech, elle veut servir les clients, veut trouver une solution à un problème, veut créer aussi de la joie, du plaisir, créer de l'engagement, faire du business. Et là, on est tous ensemble avec le même objectif. Et le design vient là apporter sa connaissance et apporter son impact au niveau stratégique, au niveau de connaissances clients, au niveau de culture, au niveau de cycle de développement avec des aspects un petit peu plus process et delivery. Donc non, il n'y a aucune opposition. Il faut qu'il n'y ait pas d'opposition entre les équipes. Sinon, ça ne marchera pas. Et c'est aussi notre rôle d'avoir une stratégie un peu globale, transverse, une stratégie des petits pas, très stakeholder, un peu stakeholder oriented, et, et faire un peu une stratégie enveloppante, si je peux le dire comme ça, pour montrer la valeur et aussi pour écouter les autres et voir comment nous, on peut aussi en profiter de eux pour faire les meilleurs designs. Parce que si on design tout seul, les résultats ne seront pas bons. On a besoin des insights, des retours, des sachants. Les sachants, ce ne sont pas que dans le design. Il faut qu'on évite surtout, des fois, on tombe sur un peu l'ego du designer. Et je pense que c'est beaucoup plus simple que ça et c'est beaucoup plus collaboratif. Après, chacun a des expertises et il faut les respecter aussi, les expertises. Donc. Mais avoir ton expertise ne t'empêche pas d'écouter les autres et de faire, comme je dis, une stratégie enveloppante dans laquelle, tant dans ta pratique que dans ton écoute, tu englobes, tu enveloppes la plupart de ton entreprise.
Est-ce qu'un département de design ou design UX ou autre doit être absolument transversal dans une organisation? C'est une question un peu piège parce que je pense que oui, mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on doit avoir une transversalité pour s'assurer d'une certaine forme d'uniformité? Est-ce que le design, c'est pas ça aussi?
Si, c'est sans doute. Et notamment, moi, dans mes expériences précédentes sur des sujets qui sont liés au design, mais par exemple les design éthiques ou l'éco-conception, où nous, on a fait des fois des stratégies, des petits pas, et à nouveau très enveloppantes pour essayer d'être le plus transversal possible et avoir le plus d'impact. Et là, c'était sur des questions vraiment très pointues, sur des entreprises où on avait un niveau de maturité assez fort, mais sur notre pratique au quotidien, nous, on met en place des expertises comme les service design, la UX research et même les product designers sont amenés les product designers sont pas amenés à regarder uniquement sa fonctionnalité, même s'il faut que sa partie de produit marche bien, mais son partie de produit est dans un contexte plus global, dans une vue plus systémique, dans un système qui marche. Et c'est pour ça que on a les product designers qui peuvent travailler avec les service designers, qui vont lui donner cette vue un petit peu plus transverse. On travaille avec les customer success pour que finalement, quelle est la place de l'humain dans tout ça? Quelle est la place des interactions de l'homme avec les points de contact de l'entreprise? Donc, les designs, c'est doit transversal si on veut vraiment avoir un impact stratégique et un peu global sur l'expérience.
Parce qu'on revient toujours aux exemples de Apple, évidemment, qui nous, quand on le regarde de l'extérieur, on a l'impression justement de cette transversalité-là. Adobe aussi, où on a l'impression que tout est fait de façon commune, de façon cohérente. On essaie de s'approcher de ça en général, mais on ne le voit pas dans toutes les organisations nécessairement comme ça. Là.
Non, c'est compliqué. Hein. C'est un des challenges les plus compliqués. Ça vient avec, des fois, vous disiez, des petits pas. On commence peut-être pour montrer une valeur beaucoup plus un peu connue sur la partie plus tangible du produit. Et petit à petit, on peut aborder d'autres aspects un petit peu plus stratégiques. Moi, je suis d'avis, personnellement, mais c'est que mon expérience et que honnêtement, ça doit pas être quelque chose à prendre comme un conseil pour tout le monde dans tout contexte. Dans mon expertise, moi, j'ai toujours préféré de toucher même avec des petites initiatives tous les éléments de l'expérience. C'est-à-dire que moi, très rapidement, par exemple, chez Payfit, il n'y en avait pas. Il y avait une super structure et une super équipe de design, mais on n'en avait pas des rôles de service design. Donc tout de suite, au moins on a un. Et c'est un qui en a un est capable de nous donner cette transversalité qui nous manquait, cette présence avec certaines équipes. Et du coup, ouais, des fois, on a peur aussi, comme je disais, le blocage, de ne pas être sous la direction qu'on veut. Des fois, on se bloque parce qu'on dit, non, mais avec un service designer, qu'est-ce que je peux voir? Non, si, tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux commencer à traduire une intention à des projets transverses qui vont finalement alimenter toutes les équipes, qui vont générer une traction qui va faire de l'équipe design une pierre centrale ou un point central dans cette transversalité de l'expérience. Elle ne s'arrête pas à l'application mobile ou au système digital. Elle est beaucoup plus, elle est tous les touchpoints, c'est la marque, c'est l'ensemble d'artefacts de l'entreprise, du produit et du service.
Et votre personne de service design que tu as fait rentrer, donc c'est quelqu'un qui fait des ateliers, qui rassemble un peu les gens en interdépartement. Donc ça force un peu la conversation, c'est essentiel, là.
Bien sûr, on est extrêmement collaboratif. C'était déjà le cas chez Payfit pour l'équipe des design. Là, on a rajouté une couche un petit peu plus transverse, mais qui en grande partie était déjà là. Et il faut continuer avec cette voie de la collaboration. Il ne faut pas se fermer, il faut pas. Nous, on n'a pas la solution à tout. La solution, elle vient des discussions, elle vient de la confrontation d'idées, les designs, et ça aussi. En fait, c'est finalement confronter des idées, des points de vue et trouver une meilleure solution. Comme j'ai dit, il faut respecter les expertises, il faut les maximiser les expertises, mais les maximiser aussi en collaborant.
Et est-ce que tout le monde comprend en 2024 à quoi sert le département de design? Est-ce qu'on doit encore justifier son existence?
Bah, j'imagine qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ne comprennent pas la raison d'être d'un département de design ou d'une équipe de design. C'est nous, on a des fois, on est dans une espèce de bubble entouré de pairs qui connaissent bien le design, qui connaissent le produit, ouais, qui connaissent la tech. Or, en réalité, une grande partie de nos strates d'entrepreneurial ne le connaît pas forcément. Et même dans les entreprises qui connaissent les designs, est-ce qu'on doit justifier pourquoi pas? Pourquoi on ne devrait pas justifier l'existence d'un département de design? Je pense que oui, mais comme toute autre expertise, comme tout autre département, c'est compliqué de dire que c'est à qui qu'il faut un département de design. Cela dépend du moment de vie de l'entreprise, de son passé, de son legacy, de son contexte actuel, même de ses economics, de sa taille, de son business, des ambitions qu'elle a pour son produit, pour son service. Tout a un impact sur l'activité et sur les expertises qu'il peut mettre en place ou aider à que ses produits ou ses services sont un succès. Ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas du design. Ça veut dire qu'ils n'ont pas forcément une équipe dédiée qui fait des designs. Chaque entreprise est différente, chaque monde est différent, et ce n'est pas mieux, ce n'est pas pire. C'est juste que c'est beaucoup plus complexe que ça. On revient un peu au côté systémique et systémique de l'ensemble de l'entreprise, qui est beaucoup plus complexe que dire non, il faut un département du design, sinon tu n'auras pas du succès. Alors on sait que ce n'est pas forcément le cas. Ouais. Et on sait que ça va arriver selon les bons moments pour l'entreprise. Et peut-être qu'il y a des opportunités dans l'avenir. Et là, pour le coup, je te lance une question ouverte à toi, Jean-François, ou à toute personne qui va nous écouter. C'est aussi le côté de potentiellement les AI, la IA. Est-ce que ça ne va pas aider justement à des entreprises que peut-être croyaient que pour avoir un département de design avait besoin d'un investissement très important? Peut-être avec l'IA comme un compagnon, comme un booster, est-ce qu'on n'aurait pas peut-être des équipes plus petites, mais plus nombreuses dans des entreprises? Est-ce que ça ne va pas démocratiser la pratique du design? Honnêtement, je n'ai pas la réponse. Je lance comme ça, je lance la discussion. Ça commence à être c'est un terrain qu'il y a des gens plus experts que moi en ce moment sur le design et l'impact de l'IA. Et moi, je le suis en Suisse chez Payfit pour essayer de voir comment ça peut impacter notre framework de travail. Mais je me dis que justement, ces entreprises qui des fois ont peur d'investir sur le design, parce que des fois, on est une machine, bah peut-être ils auront moins peur si ces deux ou trois designers sont accompagnés par
une IA. Et ça doit être un gage de succès également quand dans une organisation, ce sont les autres départements qui viennent te voir parce qu'ils se disent « mais c'est essentiel » et parce que la dernière fois, ça nous a tellement aidé aussi à accomplir tel ou tel projet. C'est peut-être un indicateur, justement, que ça devient quelque chose qu'on n'a plus à justifier et qui a pris sa place dans l'organisation, là.
C'est sûr. Fondamentalement, quand tu y es, même quand tu y es, il faut toujours justifier que ton activité continue à avoir du sens. Pour moi, il n'y a rien qui est acquis. Même si moi, j'y crois profondément, probablement toi aussi, et probablement tous les designers qui vont nous écouter croient profondément que le design doit être dans l'entreprise, qu'il n'y a pas besoin de le justifier. Mais il y a un côté plus réel et un côté simplement plus. Aussi plus humble de notre expertise, il faut juste qu'on se challenge, qu'on se dise ce qu'à chaque moment, dans chaque contexte, est nécessaire que les départements du design existent. Pas forcément la pratique, mais les départements du design. Donc, à voir. Chaque cas est différent.
Est-ce que dans cette démarche-là de justifier un peu sur le long terme, j'avais fait une entrevue il y a quelque temps avec quelqu'un chez Lego qui m'avait dit qu'ils avaient mis en place des KPI, des indicateurs de rendement sur l'amélioration de l'expérience usagée face à les actions que prenait le département de design chez Lego. Est-ce que c'est quelque chose que vous visez de mettre en place aussi chez Payfit, d'avoir des indicateurs de rendement sur l'efficacité et de l'impacter, de voir que ça justifie aussi le département de design à quelque part?
Oui, bien sûr, on a des indicateurs de suivi des performances
OK.
et on en a des indicateurs qui sont pour la plupart partagés avec des autres départements ou même les C-level. C'est là où il y a toute la puissance des indicateurs qui ne doivent pas être très nombreux non plus à chaque niveau. La puissance, c'est quand ils sont partagés et quand ils sont bien orientés sur les objectifs globaux de l'entreprise. Donc, si on suit sans doute hein, la satisfaction client, les taux de conversion de certains de nos funnels, on suit l'autonomie de nos clients, qui pour nous est important, s'ils sont autonomes, s'ils ont besoin d'énormément d'aide. On suit aussi le churn, on suit aussi des metrics pour lesquels on peut avoir un impact ou on a eu un impact. Après, c'est toujours compliqué de savoir qu'est-ce qui a eu l'impact exactement sur chaque KPI, mais ce que je trouve important pour un département de design, c'est qu'on n'a pas besoin de inventer des KPI. Les KPI existent, il faut les embrasser, il faut juste les adopter. Et après, il faut faire un travail un peu plus fin de voir comment on peut les impacter. On est de façon plus opérationnelle côté design. Et on peut le faire. Mais après, il y a des KPI intéressantes, les System Usability Score, Scale or Score. C'est intéressant aussi pour des aspects plus de simplicité d'usage. Il y a des indicateurs qui peuvent nous parler plus aux designers que d'autres. Mais in fine, il faut que ça soit intégré dans un tout. Et surtout aussi, chose qui est intéressante sur les indicateurs de performance, c'est que ils doivent pas être, en tout cas moi je l'utilise pas comme ça, chez Payfit on l'utilise pas comme ça, ça doit pas être un élément de contrôle managérial, c'est pas un élément
Ça peut
de
arriver.
bien sûr, mais je parle de mon expérience, ça doit pas être ça, c'est plus un outil de suivi de la valeur délivrée aux clients par les équipes, par les designers, et chaque designer ou à chaque niveau de l'entreprise, s'il y a des niveaux, il faut qu'ils regardent des KPI qui leur permettent, par rapport à son périmètre d'action, de comprendre s'ils sont en train de délivrer de la valeur au client.
Et comment, en général, puis tu me diras si c'est le même cas chez Payfit, il y a moins de designers dans une organisation qu'il y a de programmeurs, de vendeurs, de toutes les autres corps de métier, ou dans bien des grandes organisations, d'analystes d'affaires, d'architectes de solutions, de programmeurs. La gamme des IT est en général bien supérieure en nombre aux designers. Comment toi, tu le gères, ou comment tu recommandes de gérer un département design, en fait, j'allais dire UX, mais UX design ou tout. Comment on fait pour arriver à contrebalancer ce nombre-là et être toujours efficace et significatif, avoir une influence significative dans l'organisation?
Moi, les mots contrebalancés, c'est comme si on avait un côté perdant. Mais je le prends comme ça, mais je ne sais pas si on peut le comprendre comme ça en français. Moi, je le comprends comme ça de mon côté espagnol qui essaye de parler au mieux le français. Mais contrebalancer,
Oui.
ça m'amène à un côté comme si ces déséquilibres n'étaient pas bien ou n'étaient pas justifiés. Je ne dis pas que c'était bon, mais
C'est une bonne question.
Si on va, pour moi, ce n'est pas injustifié. C'est un déséquilibre qui est raisonnable, qui est raisonnable par rapport aux tâches, aux activités, à la complexité aussi opérationnelle de métier. Donc, il n'y a pas un côté de contrebalancer de mon point de vue. Il y a un côté de comment on peut optimiser, comme tu disais aussi, à nouveau, c'est pas compenser les déséquilibres, c'est simplement nous assurer qu'on arrive à travailler ensemble, qu'on arrive à travailler bien ensemble entre effectivement un ratio peut-être d'un designer tous les 8 développeurs ou un designer tous les 9 développeurs.
C'est
Et
très
c'est pour
bon.
ça.
C'est un très bon ratio.
Oui, et c'est pour cela qu'on a d'autres rôles aussi dans les équipes, qu'on est product manager, qui aide aussi à cette synchronisation globale. Il n'y a pas non plus autant de product manager que de développeurs, et c'est aussi normal. Et
Vrai, c'est vrai.
ce travail que nous, chez Payfit, c'est un peu le travail d'une triforce, même une tétraforce, on va dire, avec la data, product management, la tech et aussi le design. C'est cette force de quatre côtés ensemble qui font que la communication devient plus transparente. On essaie de faire un travail proche, itératif entre les équipes, les designers aussi avec les devs. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de barrière de contact, on peut se contacter. Il y a vraiment une idée d'itérer, de travailler ensemble, de travailler sur des discoveries aussi ensemble. C'est important que les développeurs soient aussi dans des phases de créativité, des
C'est vrai.
recherches utilisateurs aussi, sont invités. Il y a toujours, c'est pas toujours, ils sont toujours pas là, mais sont invités à
Oui.
comprendre les insights des clients. Ils ont des fois, on peut les aider à être plus sensibilisés au design s'ils ne le sont pas.
Ouais.
Et on leur partage des insights clients, des retours des clients par rapport à ce qu'on fait. Mais de plus en plus, je pense qu'ils sont sensibilisés, ils comprennent bien le design. Et cette balance, finalement, moi, je la trouve pas si complexe. Après, c'est l'humain, hein, et l'humain est toujours complexe. Hein. L'humain est toujours complexe, et les relations entre des équipes qui travaillent même au quotidien ensemble, c'est
Ouais.
toujours complexe. Il faut juste avoir les bons mécanismes, la bonne communication, la transparence, le travail proche, l'itération et la bienveillance, finalement.
Toujours. Et donc, ça veut dire, donc chez Payfit, je ne sais pas comment gros c'est ton équipe par rapport à l'ensemble de Payfit, mais ça veut dire que tu as assez de designers pour servir chacun des projets importants à l'intérieur de Payfit. Ce n'est pas toujours le cas, là. Parfois, on doit déchirer un peu un designer entre deux ou trois projets. Il manque de ressources souvent.
On essaye d'avoir une logique de ratio qui nous semble efficiente pour notre objectif. Des fois, effectivement, nos designers sont
Beaucoup.
pas tous en vedette dans des squads. Ils sont des fois sur deux périmètres qui ont du sens ensemble, mais qui sont pas exactement uniques. Donc, on fait attention notamment à ça et avoir surtout une belle force, une belle puissance. Pas uniquement sur le design, mais sur la tech, les ingénieurs, les pros de management, les data, etc. Donc, c'est une orchestre finalement, c'est un jeu d'ensemble. Ce n'est pas que le design, on doit avoir plus de designers. Moi, avoir des designers qui tournent le pouce comme ça,
Pas mieux,
ce n'est pas idéal, ce n'est pas efficace, ce n'est pas ça que je veux. Je ne veux pas plus de designers pour le plaisir d'en avoir plus. Je veux les nombres de designers qui peuvent vraiment respecter la partie plus opérationnelle, mais qui peuvent aussi nous amener plus loin. Sur
ouais.
des expertises comme les design ops, la research, ou par exemple, comme je disais, les service design, ou les brand design, ou des aspects plus de créativité, sans être trop nombreux, il faut qu'on trouve une harmonie pour servir l'entreprise dans le court, moyen et long terme.
Et là, ça va faire bientôt un an que tu es avec eux, je crois. Quel est
Un
le
peu moins, mais.
plus un peu moins d'un an. Quel est le plan démoniaque de domination de l'univers pour toi dans l'année qui vient ou dans les 2 années qui viennent? Qu'est-ce qui est à mettre en place encore? Ou si c'est juste, tu es vraiment dans le développement, tu accompagnes Payfit, ou il y a vraiment quelque chose où le positionnement de l'équipe de design aurait encore plus de valeur pour Payfit si tu arrivais à faire ça dans cette année qui vient, là?
On a beaucoup travaillé sur des aspects un peu plus opérationnels ces derniers temps et à optimiser nos façons de travailler sans la rendre comme pour les standards et sans être processus obsesse. Mais cette année, ce qu'on doit essayer, notre idée principale, c'est finalement renforcer cette transversalité et ces expériences un peu end-to-end. Souvent, je dis souvent, mais par rapport à des expériences passées de mon côté, on a des équipes qui sont un peu silotées. Et les designs, c'est un peu ces gluants, c'est un peu ces liens fil
Ouais.
rouge qui construisent les expériences de bout en bout. Et cette année, on l'a fait aussi l'année précédente, mais cette année, il faut qu'on renforce davantage ces liens entre les expériences. C'est créer
Wow.
vraiment une expérience seamless
Ouais.
au sein du produit et au-delà. Avec le CS, avec les sales, avec le marketing, avec la marque, bah, construire tout ça, toutes ces expériences un petit peu plus en continuité. Et avant, on était un petit peu plus siloté. Maintenant, on va renforcer la continuité.
C'est peut-être là où on peut retrouver la plus grande valeur du design à l'intérieur d'une organisation. Veux, veux pas, moi, je ne l'ai jamais entendu aucun autre département se revendiquer cette transversalité-là. Ce n'est pas les ventes, ce n'est pas le marketing, ce n'est pas la production. Il n'y a personne d'autre qui peut dire on va avoir une valeur ajoutée à être transversal. Marketing, communication, service d'appel. Si on touche un petit peu à tout ça, on peut arriver à avoir une belle expérience pour les utilisateurs. Il n'y a que le design qui peut faire ça dans une organisation.
C'est certain que nous, on se doit de faire ça parce que nos clients, ils ne vont pas faire exactement ce qu'on veut. Ils ne vont pas rentrer par les seuls canaux qu'on veut proposer. Ils ne vont pas avoir, ils vont pas aller sur les parcours nominaux. Bon, on va essayer que ça soit les plus simples, mais leur façon de faire est complexe. Elle est ouverte. Nous, on doit aussi adopter cette ouverture, cette façon d'utiliser nos services. Et cette façon, elle est transverse par défaut. Donc nous, je ne sais pas si on est les seuls, mais en tout cas, nous, on est ceux qui on doit être très force de proposition, porteur. On a deux côtés. On a porté la voix du client et porté l'utilisateur, mettre l'utilisateur au centre. Ça, c'est quelque chose qu'on fait aussi avec les équipes CS, notamment des Customer Success. C'est quelque chose que nous, on doit vraiment être un peu l'étendard de ces sujets. Mais de l'autre côté, pour moi, c'est cette transversalité. Les clients est complexe et les parcours sont multiples et les liens entre les expériences doivent être seamless, sans effort, agréable. Il doit respecter la tâche que le client veut faire. Il faut respecter, il faut l'aider, il faut aussi lui faire vivre des fois de la joie, même si on est sur un SaaS B2B de HR. Bah, il y a des moments de joie, il y a des moments qui sont émotionnellement très engageants. Il faut qu'on soit là présent, il faut qu'on l'accompagne. Et tout ça, on peut le savoir que si on regarde les designs de façon transversale et avec une touche de systémique.
C'est une tellement belle conclusion de notre conversation, David. Merci vraiment beaucoup.
Merci à toi. Merci à toi. C'est un plaisir toujours de discuter avec toi de design.
Toujours un plaisir. Merci beaucoup.